Comme vous le savez peut-être, certains d'entre vous, je suis originaire de très loin, vous savez, le nord, même au-dessus de Bordeaux. J'ai vécu plusieurs années en Normandie, et peut-être vous connaissez un peu cette région, et on a des plages qui sont vraiment magnifiques là-bas. Des plages de sable blanc, sable fin. Certes, la météo n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est vraiment magnifique. Et un jour, je me baladais pour prendre un peu de repos sur ces plages-là. Et j'ai pris le temps de réfléchir à l'histoire. Vous savez qu'en Normandie s'est jouée une des plus belles et une des plus tragiques parties de l'histoire de notre pays. En 1944, la France était occupée et l'avenir était sombre. On savait qu'il se passait des choses horribles, on ne savait pas trop quoi. Et on ne savait pas quelle allait être l'issue pour notre pays. Et c'est sur ces plages de Normandie que le 6 juin 1944, des milliers de soldats, pas forcément français, on sait américains, anglais, d'autres pays, ont débarqué sur ces plages, ont donné leur vie pour notre liberté. Et j'étais touché ce jour-là de voyager un peu en Normandie, de prendre la voiture, d'aller dans différents endroits. J'étais sur cette plage d'Omaha Beach, où j'ai lu ce poème, alors je ne me rappelle pas exactement, mais je vais essayer de m'en rappeler, où ces jeunes hommes américains en particulier, là, c'était à Omaha Beach, c'était des Américains qui avaient débarqué, ils disaient qu'ils ont quitté leur pays libre pour mourir sur nos plages. Au prix de leur sang, ils ont obtenu notre liberté. Souvenez-vous de nous. Un peu plus tard, j'ai été dans l'un des cimetières qui se trouvait à proximité, et j'ai commencé à lire les noms, prénoms qui étaient sur les différentes tombes. Et leur âge. 18 ans, 18 ans, 19 ans. Quand on voyait 28 ans, 29 ans, on savait que ça allait être quelqu'un d'haut gradé. Et toutes ces personnes-là, des personnes bien réelles, hein, comme vous et moi, ont donné leur vie sur ces plages pour notre liberté. Alors, est-ce que j'ose vous demander maintenant comment est-ce que vous allez ce matin? Rassurez-vous, hein, je ne vais pas faire lever les mains pour savoir qui est venu ici en forme, qui est venu ici découragé. Vous savez que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est facile. Alors, on peut arborer notre sourire du dimanche, hein, c'est vrai. Et parfois, on vient à l'église avec la joie du Seigneur et merci Seigneur que ça arrive. Mais il y a aussi des jours où on peut être plus découragé. Peut-être certains d'entre vous, vous avez des doutes sur Dieu qui traversent votre esprit. Vous n'osez pas forcément le partager aux autres chrétiens qui sont autour de vous. Peut-être que vous sentez votre foi fragile. Peut-être que vous venez même à vous demander comment rester un disciple engagé sur la durée. Moi, je me pose cette question pour ces différents soldats qui ont donné leur vie sur les plages. Comment est-ce qu'ils ont fait pour quitter leur pays, quitter un pays libre, à 18 ans, 19 ans, donner leur vie pour une liberté qu'ils ne goûteraient même pas? Comment est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient face à l'ennemi pour ne pas reculer, alors que les balles fusaient dans tous les sens, et ils ont continué le combat? Peut-être vous, certains jeunes, mais pas forcément jeunes. Certains connaissent peut-être la série télévisée Frères d'armes, qui reprend un peu certains éléments historiques de la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette série, on voit un homme, un soldat. Ce jeune homme, en fait, quand il a débarqué sur les plages, ben, il a survécu. Et donc, du coup, il reçoit un peu les honneurs à la fin. Mais il va voir son commandant et il lui explique la véritable histoire. Il dit « Je ne mérite pas d'avoir les honneurs. » Parce qu'en fait, si je dis la vérité, quand ils sont arrivés, on nous a parachutés, je suis arrivé sur le sol, j'avais tellement peur, je suis resté pendant 48 heures couché dans les herbes et j'ai pas bougé. Et le commandant qui lui répond, tu sais, quand tu débarques comme ça pour la guerre, tu étais déjà mort. Et le fait de savoir que tu étais déjà mort, tu avais déjà donné ta vie, c'est ça qui a poussé toutes les autres personnes à continuer de combattre pour la liberté. Alors et nous en tant que chrétiens, comment faire face aux tentations de la vie? Comment est-ce que tu fais face à la tentation de mener une vie confortable au lieu de suivre le plan de Dieu pour ta vie? Comment tu fais face à la tentation de laisser certains petits péchés mignons, comme on aime bien dire, s'installer et prendre racine dans ta vie et produire du fruit qui n'est pas la gloire de Dieu? Comment est-ce que tu fais pour ne pas tomber dans la tentation de vivre par rapport au regard des autres, même au regard des autres chrétiens dans l'Église, au lieu de vivre sous le regard de Dieu pour ta vie? Alors, il y a une phrase que j'aime bien dire, et j'espère que vous allez la retenir. Je l'ai peut-être déjà dit dans un message ici. La direction que tu donnes à ta vie détermine la destination. Je ne sais pas si Denis il est là, je vais te faire intervenir. Je me permets. Vas-y, viens devant. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. C'est ça qui est bon. Alors, j'aimerais que tu te diriges... Alors, écoute bien. Tu vas te diriger vers Malia, là-bas. D'accord ? Tu la vois, elle est juste au bout. OK. Et ton objectif, c'est de serrer la main... je ne vais pas faire de bêtises. À Josué, qui est juste à côté, là-bas. D'accord ? Donc, tu te diriges... vers Malia, vas-y. Ouais, tu changes pas de direction. Et tu serres la main à Josué. Vas-y. Non, ça se passe pas comme ça. Merci beaucoup, Denis. On peut l'applaudir. Quel était le problème de Denis ici ? Il a pris la mauvaise direction. La direction que tu donnes à ta vie détermine la destination. Tu veux être un disciple engagé sur la durée et tu prends une autre direction. Est-ce que tu penses sincèrement que tu vas arriver dans cette destination-là? Oh, tu peux t'aveugler, tu peux penser que oui, je vais un jour être engagé. Mais si tu prends pas cette direction-là, tu n'y arriveras jamais. Moi, quand j'ai pris en me disant ma destination, ça va être Toulouse, j'ai pas pris le train pour aller vers Lille. D'accord, j'aurais pu me dire, être sincèrement sincère, genre, je vais à Toulouse, appeler tout le monde, je vais à Toulouse, et monter dans le train sincèrement en me trompant, oui, peut-être, mais je serais arrivé à Lille quand même. La direction que tu donnes à ta vie détermine la destination. Est-ce que tu as envie de lutter, de combattre le bon combat? Est-ce que c'est ton désir le plus profond dans ton cœur? Quand tu lis les évangiles, quand tu lis la parole de Dieu, tu as envie que la destination de ta vie, ça soit d'être un disciple engagé? Et j'aimerais répondre à cette question ce matin. Comment rester un disciple engagé sur la durée? Vous savez, on a dit les histoires là de ces soldats, mais parfois c'est tout aussi réel dans nos églises. Plusieurs discussions ces derniers temps avec des amis à moi, on partageait des membres de nos familles, des amis proches, des amis quand on était étudiants il y a quelques années qui seraient venus ici, derrière le pupitre, qui auraient présidé un culte, qui connaissaient la Bible, et qui aujourd'hui, malheureusement, ne suivent pas le Seigneur. Ce sont une réalité. Le monde est brutal dehors. Les philosophies qu'on entend dehors, elles sont dures. La souffrance qu'on peut vivre dans notre vie, elle est réelle. Ce n'est pas juste des mots comme ça qu'on va mettre sur un PowerPoint. Hein. Comment faire face à la souffrance en tant que chrétien? Quand elle te tombe dessus, elle est difficile à vivre. Les tentations qui sont autour de nous, elles sont difficiles à y résister. Comment est-ce qu'on peut faire pour être un disciple sur la durée? J'aimerais vous donner ce matin 4 conseils pour une vie de disciple qui s'inscrit dans la durée. Alors tout de suite, vous allez peut-être vous dire que je suis présomptueux. Le gars, il est assez jeune encore, il arrive, il donne 4 conseils pour marcher avec Christ sur la durée, alors qu'il est encore jeune, et qui prouve que je marcherai moi-même sur la durée? Alors en fait, je vais vous rassurer, j'ai pas envie de vous donner des conseils qui sortent de mon propre expérience, mais vous donner des conseils qui sortent de la parole de Dieu. On retrouve l'apôtre Paul qui, au fin de sa vie, et quand vous voyez son témoignage, vous savez qu'il est marqué par la présence de Christ. Lui-même a une conversion radicale et il a suivi Christ de la même manière. Il a combattu le bon combat, c'est ce qu'il nous dit dans la lettre qu'il écrit à Timothée. J'ai terminé la course. Et à la fin de sa vie terrestre, vous le savez peut-être, il a écrit cette lettre à Timothée. Timothée, c'était comme un enfant spirituel pour lui. C'était quelqu'un en qui il a investi dans sa vie. Il a vu Timothée se convertir. Il connaissait la vie de Timothée, il connaissait sa mère, sa grand-mère, sa famille. Il avait investi tout ce qu'il avait dans la vie de Timothée. Et l'apôtre Paul, malheureusement, il avait investi la vie... Ben, bien heureusement, il avait investi sa vie dans plein de personnes. Mais toutes n'ont pas suivi la bonne direction et la bonne trajectoire sur leur vie. Si vous lisez 2 Timothée, il va vous en citer. Ceux qui habitaient en Asie, Phygèle, Hermogène et d'autres, se sont détournés de la foi. Vous imaginez ? Je ne parle pas ici de se détourner simplement du ministère auquel ils avaient été appelés. Ils se sont détournés de la foi en Jésus-Christ. Ces gens qui ont été si proches de l'apôtre Paul. Et voilà que l'apôtre Paul arrive à la fin de sa vie et sur son cœur, il a le désir de partager un peu, c'est pas les secrets, mais partager les choses qui lui ont permis de tenir bon, de tenir la course. Quand il termine ce livre à Timothée, on a l'impression qu'il fait « Ah, j'ai fini, j'ai terminé la course ». Vous imaginez un peu ? L'apôtre Paul, qui semble tellement heureux de savoir « La couronne de gloire m'est réservée, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course ». Et il donne ici, dans cette dernière lettre, des conseils à Timothée pour que lui aussi puisse terminer la course et combattre le bon combat. Ça vous intéresse de les savoir, ces conseils ? Oui ? J'espère. Le premier conseil, alors vous pouvez tourner d'ailleurs vos Bibles, désolé, dans 2 Timothée, chapitre 2. Vous trouvez ce livre dans le Nouveau Testament, un peu vers la fin de votre Bible. Et on retrouve donc cette lettre que l'apôtre Paul a écrite pour Timothée à la fin de sa vie. L'apôtre Paul est en prison d'ailleurs pour sa foi quand il écrit cela. Et ce sont donc des conseils qui ont été mis à rude épreuve et qui ont permis à l'apôtre Paul de tenir bon dans sa foi. Être un disciple sur la durée. 4 précieux conseils. On va lire ensemble le chapitre 2, les versets 1 à 13. On va voir si vous arrivez à déterminer ce premier conseil. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi ne reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Le premier de ces conseils, je le résume dans ce premier verset. Puise tes forces dans la grâce de Jésus et pas ailleurs. L'apôtre Paul, au chapitre 1, ce matin on fait un peu un survol, d'accord, de Timothée, de ce livre-là, vous pourrez le relire chez vous. Dans ce premier chapitre, il est en train d'encourager Timothée. Il l'encourage à tenir ferme, il l'encourage en lui rappelant sa foi personnelle. Il est né, certes, dans une famille chrétienne, vous le lisez dans le chapitre 1, on sait que sa mère et sa grand-mère partagent la même foi que lui. Mais il a une démarche personnelle, il dit « Je sais que cette foi sincère habite aussi en toi ». La grâce de Jésus-Christ a fait cette œuvre dans la vie de Timothée. Ce n'est pas parce qu'il est né dans une famille chrétienne qu'il est devenu chrétien. Ce n'est pas parce qu'il est venu à l'église tous les dimanches qu'il était un disciple engagé. Ce n'est pas parce qu'il connaissait les chants, qu'il connaissait comment on se comporte dans une église ou avec les chrétiens, qu'il savait ce qui est respectable ou pas respectable de faire quand on se dit chrétien. Timothée a eu une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Il a eu une expérience personnelle de comprendre ce qu'est la grâce, le pardon de ses péchés, une vie nouvelle, une relation restaurée avec le Père. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il continue en disant à Timothée, qui maintenant on le sait est bien chrétien, il a eu cette expérience-là de conversion dans sa vie, et il lui dit « Toi mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Ça veut dire quoi alors ? C'est-à-dire, on est sauvé par grâce ? Mais est-ce que ça s'arrête là ? Est-ce que tu vas être un disciple sur la durée, en donnant tous tes efforts pour l'être. Ben, c'est pas le premier conseil que l'apôtre Paul donne. Pourtant, on pourrait penser ça, hein, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui servait à fond, qui a donné littéralement sa vie, tout son confort, tous ses rêves, tous ses projets, pour partager l'évangile autour de lui. Mais c'est pas le premier conseil qu'il va donner à Timothée. Il lui dit « Fortifie-toi dans la grâce. Puise tes forces dans la grâce. Les puise pas ailleurs. Ne puise pas les forces en toi-même. Ne puise pas les forces dans le regard des autres sur toi, sur l'approbation même de ton pasteur ou tes anciens qui disent « C'est bien, t'as bien servi. » C'est pas ça qui va nous faire tenir sur la durée dans notre vie chrétienne. C'est de savoir qu'on va puiser la grâce auprès de Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Moi, c'est mon témoignage personnel. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur lui-même, imaginez. Tous les dimanches, c'est comme Obélix dans la marmite, vous savez. On tombe dedans, après, on a l'impression qu'on n'a plus le droit d'y goûter. Enfin, Obélix n'avait plus le droit d'y goûter. Tous les semaines, on entend parler de Jésus. Toutes les semaines, on se lève, on chante les chants. On sait qu'il y a telle personne qui va se lever et dire « on chante le 188 » toutes les semaines. Et on grandit là-dedans, avec des habitudes, avec on sait ce qu'on peut dire, les mots qu'on peut utiliser ou pas, les mots qu'on peut utiliser le dimanche, ceux qu'on utilise la semaine qu'on a avec les potes. Bien entendu, les séries télé qu'on avoue regarder, celles qu'on n'avouerait jamais à l'église, et qu'on dirait « ben non, un chrétien, il ne peut pas regarder ça ». Et puis à la maison, on le regarde. Et c'est à l'âge de 19 ans, après 19 ans d'entendre ces choses, encore et encore, que Jésus t'aime, Dieu t'aime, il a un plan pour ta vie, il ne veut pas que tu vives dans le péché, pas pour te priver de liberté, mais pour que tu puisses connaître la véritable vie qui est en lui, la vie abondante, celle qui est pleine de paix, de joie, d'amour, et restaurée dans la relation avec le Père. 19 ans entendre ça toutes les semaines, jusqu'au jour où je comprenne que c'était pour moi. J'étais puisé dans cette grâce-là, pour ma propre vie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai vite, pas déchanté, mais vous savez, hein, on est un peu sur la lune de miel. Il paraît que c'est comme ça pour le mariage, alors. On verra, Sophie. On puisera dans la grâce ensemble. Mais à un moment donné, quand on s'est juste converti, en tout cas, c'est peut-être pas votre expérience, mais moi, j'étais tellement tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Waouh, j'aimais Dieu, je lisais la Bible, ça me parlait. Sauf qu'après quelques semaines, c'est marrant, ou quelques mois, oh, c'est drôle, on relit, on fait « pfff ». De Timothée, il prêche sur de Timothée, je connais déjà. J'ai déjà entendu. Et on commence à se blaser un peu. Et c'est à ce moment-là, l'apôtre Paul, il nous rappelle « Puise tes forces dans la grâce ». Et Timothée, il est au courant de ces choses. Hein. Il ne s'est pas converti juste la veille. Quand il écrit de Timothée ici, ça fait déjà des années, peut-être même une dizaine d'années que Timothée est en train de servir. Il a commencé des églises avec l'apôtre Paul, il a affermi des églises, il a servi, il a prêché tout son cœur. Ces mêmes vérités-là. Et pourtant, l'apôtre Paul lui dit des choses qui semblent basiques, mais qui sont la base de notre vie. Tout comme manger et boire. Si on s'arrête de manger et boire, c'est fini. Hein. On peut avoir fait plein de muscu, etc., être le meilleur athlète. Vous arrêtez de manger ou de boire, vous n'allez pas vivre longtemps. L'apôtre Paul lui rappelle, puise tes forces dans la grâce et pas ailleurs. C'est là que tu as commencé ta vie chrétienne, mais c'est là que tu la continues et c'est là que tu la termineras. Jusqu'au bout, l'apôtre Paul a su puiser dans la grâce de Dieu. Et c'est ça qui lui a permis de tenir ferme. Beaucoup de personnes sont détournées de la foi autour de lui, de l'apôtre Paul. Peut-être la peur a fait que certaines personnes sont écartées. C'est vrai, ils étaient persécutés à l'époque. Ils risquaient leur propre vie. Et parfois, ils se sont dit non, ça ne vaut pas la peine. Certains se sont laissés attirer par l'attrait des richesses. Vous imaginez à l'époque, quand vous étiez chrétien, et vous choisissiez de servir Jésus, de le suivre, parfois ça pouvait vous coûter votre travail, ça pouvait vous coûter votre place dans la société. Et certains ont trouvé ça trop dur. Le confort, la réputation, tant de choses qui peuvent malheureusement nous détourner de notre véritable espérance. Et dans un monde réel, avec les souffrances qui sont réelles, la grâce est la seule option pour survivre. Vous allez croire que je suis dur ce matin, mais c'est vrai. Hein, la grâce est la seule option pour notre sécurité en Jésus, pour notre vie spirituelle, pour le fait de survivre avec une vie spirituelle ardente dans un monde qui est froid. Son amour qui a été manifesté à la croix, son pardon immérité, sa grâce, c'est ça le moteur de notre vie chrétienne. Si on coupe le contact, on n'avance plus. On est bloqué sur le bord de la route. Revenir à la croix, c'est ce qu'il nous faut faire aussi souvent que nécessaire. Revenir à la croix pour confesser nos fautes, revenir à la croix quand on se rappelle que la grâce, elle semble une vérité juste intellectuelle et qu'elle ne réchauffe plus mon cœur. C'est ce à quoi l'apôtre Paul conseille Timothée. Puise tes forces dans cette grâce, pas ailleurs. N'appuie pas juste dans ton expérience passée avec Dieu. Puise-la aujourd'hui, dans ton présent. Il y avait quelqu'un, un pasteur, qui disait, vous savez, il faut arrêter de dire que c'est difficile de suivre Jésus. Et tout le monde était en train de le regarder comme ça. Il faut arrêter de dire que c'est difficile. Il faut arrêter de dire que c'est difficile, c'est pas facile. Il faut dire la réalité. C'est impossible de suivre Jésus par ses propres forces. C'est pas difficile ou pas facile. C'est impossible si tu puises pas tes forces dans la grâce de Dieu. Ça va? Ça vous a encouragé? Ouais? Moi, en tout cas, ça m'encourage. Je me dis que la grâce, elle est là pour nous donner les forces. Ok, deuxième conseil. On va lire ensemble un passage. Ne vous inquiétez pas, on lit encore un passage assez long, mais on va s'attarder sur un verset, d'accord? J'ai envie qu'on ait la vue d'ensemble de ce livre de Timothée. On est au verset 14 du chapitre 2, et on va lire quelques versets jusqu'au, il me semble, le verset 22. Rappelle ces vérités aux croyants. Donc, fortifie-toi dans la grâce, c'est pas que pour Timothée, c'est aussi pour tous les croyants. Rappelle ces vérités aux croyants, en les suppliant devant le Seigneur, de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philète. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlent la foi de certains. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent. Porteuses de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble et les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Amen. Le deuxième conseil, c'est drôle, je le trouve presque un peu contradictoire. Parce que au verset 14, alors là je l'ai écrit d'une autre manière, il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves ». C'est drôle quand même. Il vient de dire « Puise tes forces, fortifie-toi dans la grâce » et maintenant il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu ». Comme si on devait puiser dans la grâce et en même temps mettre tous nos efforts dans le combat qu'on est en train de mener dans notre vie spirituelle. Je pense qu'effectivement, vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas incompatible. On peut aimer quelqu'un, comme dans le couple, et en même temps faire des efforts. Est-ce que c'est incompatible? On peut aimer notre famille, aimer des amis, et par moments, on va faire des efforts, justement, pour aimer. C'est la concrétisation même de l'amour. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire le conseil numéro 2. Vous suivez bien? Conseil numéro 1, c'est... On vérifie. Puise tes forces dans la grâce, et le conseil numéro 2, utilise ces forces-là pour combattre face au péché. Puise tes forces dans la grâce et utilise-la à bon escient. Si tu prends cette direction-là dans ta vie, tu puises tes forces dans la grâce, tu utilises ces forces-là de la grâce pour combattre face au péché, tu es déjà en train de prendre la bonne direction pour arriver à cette destination du disciple engagé sur la durée. À quoi est-ce que tu vas utiliser ces forces-là? Est-ce que tu vas faire comme certains, dont l'apôtre Paul reprend durement? Il parle bien dans l'Église ici, qui vont avoir des disputes de mots incessantes. Ils vont parler de sujets théologiques qui... On est dans la ville d'Airbus ici, mais c'est encore plus haut, quoi. En train de voler au-dessus des nuages. et parfois malheureusement sans être rattachés à la vie de tous les jours. Vous savez que la théologie, c'est l'étude de Dieu, elle devrait toujours avoir un impact dans notre vie. C'est vrai, si on étudie qui est Dieu, sa sainteté, sa miséricorde, sa bonté, sa grandeur, sa toute-puissance, ça devrait toujours avoir un impact dans notre propre vie, non ? Je lis que Dieu est tout-puissant, bah, je suis face à une difficulté dans ma vie, je peux me confier dans le tout-puissant pour qu'il agisse. Je lis qu'il est bon, miséricordieux, qui fait grâce. Quand je tombe dans le péché, je sais que je peux me tourner vers lui, parce qu'il est bon, miséricorde et grâce, et qu'il va pardonner mes fautes. Mais si je plane à hauteur, au-dessus des nuages, j'ai le danger de décrocher, parce que j'ai été un peu trop haut. Ici, c'est ce qui se passe, hein, à Éphèse, dans l'église d'Éphèse. Où est Timothée quand l'apôtre Paul lui écrit cette lettre ? C'est ce qu'il dit, on l'a lu ensemble, non ? Supplie-le devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots, elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé, quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas avoir de discussion théologique, vous êtes d'accord avec moi, hein ? J'espère que vous avez bien compris ça. Mais qu'elles doivent toujours être là pour nous encourager dans notre marche avec Dieu. Toujours être connecté avec la réalité que nous sommes dans un combat spirituel et nous allons livrer ce combat jusqu'à la fin. L'apôtre Paul, en tout cas, c'est marrant parce que c'est lui qui a écrit plein de choses théologiques. C'est lui qu'on va citer pour sortir plein de types de trucs fantaisistes, même des fois, là, sur la théologie. Et pourtant, lui, jamais ça a été déconnecté de la vie de l'Église, de la vie du croyant et du combat missionnaire même à faire connaître l'Évangile. En tout cas, moi, de mon côté, ça m'encourage de savoir ça. Il dit ensuite, ce verset que vous connaissez peut-être, on le cite souvent dans des groupes de jeunes, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel d'un cœur pur, au Seigneur d'un cœur pur. » On pense souvent que ces passions de la jeunesse, elles seraient les passions, vous savez, du sexe, rock'n'roll, l'alcool, etc. Mais dans ce contexte ici, ça peut bien sûr aujourd'hui être cela, mais dans ce contexte-là, il semble que ce soit plutôt l'orgueil de la vie, l'orgueil de la jeunesse, de dire « Moi, j'ai raison et je vais le prouver à tout le monde. » Et l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, fuis ça, recherche plutôt la vie véritable en Jésus et enseigne ça aux croyants. Enseigne-leur à puiser dans la grâce et à puiser, une fois qu'ils ont puisé dans la grâce, à utiliser cela pour combattre face au péché. En tout cas, j'imagine qu'on a tous des choses dans nos vies, qu'on est conscient qu'on a besoin de fuir pour survivre spirituellement. Et on sait aussi que ce n'est pas juste fuir le péché qui nous permet d'avoir la victoire, mais c'est de rechercher les choses de Dieu, la justice, la foi, l'amour, la paix. On ne va pas juste renoncer au péché, on renonce au péché pour accepter la vie nouvelle que Jésus nous donne. Et quand on renonce au péché, on peut vivre cette vie véritable. Ok, alors je vais passer au troisième. Ne vous inquiétez pas, le premier, je crois que c'était forcément le plus long. Conseil numéro un, c'est puise. Conseil numéro deux. J'étais prof, hein, donc je suis désolé. Je veux que vous ayez retenu en partant d'ici. Le conseil numéro 3 se trouve dans le chapitre 3 et on ne va pas le lire ensemble, on va lire juste un verset, d'accord ? Le verset se trouve, chapitre 3, verset 14. Encore une fois, après d'avoir parlé, l'apôtre Paul s'adresse spécifiquement à Timothée. Il vient de lui raconter qu'il y a beaucoup de personnes, des faux enseignants dans l'Église, qui détournent les gens de la vérité. Des personnes qui commencent à dire « ça, c'est pas mal ». Ça, on peut vivre comme ça en étant chrétien. Il commence à tordre un peu notre compréhension du péché et à faire des compromis, à encourager les chrétiens à vivre dans ces compromis-là. Et l'apôtre Paul, en comparaison, montre l'exemple de sa propre vie. Il lui dit « Tu as suivi mes persécutions, mes souffrances, tout ce que j'ai enduré pour la cause de l'Évangile. » Et voilà la conclusion de ce chapitre 3. Il dit « Quant à toi, Timothée, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. » Il lui rappelle les différentes personnes qui ont influencé sa vie. Il a eu sa mère et sa grand-mère, qui dès son enfance, il a entendu le message des saintes écritures de la Bible. Et aussi l'apôtre Paul, qui lui-même a eu cette influence-là dans sa vie. Et je crois que le troisième conseil que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est de bien choisir qui tu laisses influencer ta vie. J'ai failli écrire « Choisis qui influence ta vie ». Et j'ai changé en disant « Choisis bien qui tu laisses influencer ta vie ». Parce que ta vie, elle est forcément influencée. À moins que vous pensiez que vous êtes le plus fort, moi je ne suis pas influençable, je fais mes choix par moi-même. Le fait même que tu penses comme ça, ça montre bien que tu as été influencé par quelqu'un. Désolé. On est tous influencés. On est influencé par nos proches, on est influencé par les gens de notre église, on est influencé par les gens qui sont au travail, etc. On peut choisir quelles influences on laisse prendre racine dans notre cœur. Imaginez, Timothée, il aurait pu. Ouais, arrête, l'apôtre Paul, il est un peu too much, il va trop à fond. On n'est pas obligé d'être à fond comme ça. Ouais, c'est vrai, attends, le gars, il va en prison, il peut arrêter. 5 minutes, il arrête de parler de Jésus, il serait plus en prison, il ne veut pas se plaindre encore d'être en prison, alors que c'est lui qui l'a voulu, quand même. On lui a dit, continue de parler, tu vas en prison, et il le voit là en prison. On pourrait penser comme ça, des fois, non? Il est un peu trop. C'est un chrétien, mais presque trop zélé. Regarde les autres exemples, regarde, machin. Je vais sortir les noms, Jannès et Jambres, qui sont opposés à Moïse. Et bien d'autres qui sont cités dans les lettres de l'apôtre Paul. Timothée a le choix. Qui est-ce qu'il va laisser influencer sa vie? Il va suivre le modèle de l'apôtre Paul, celui qu'il a laissé. Et l'apôtre Paul dit même que lui-même, il suit l'exemple de Jésus. Mais les modèles dans la foi sont des personnes qui nous permettent de voir concrètement quelqu'un qui suit Jésus. On n'a pas Jésus qui marche avec nous. Il est en nous par le Saint-Esprit. Mais quand on voit les personnes autour de nous, et les anciens en particulier dans l'Église, ont été donnés pour ce rôle-là, qu'on puisse regarder à leur vie et imiter leur foi. Est-ce que tu laisses des mauvaises influences prendre racine dans ta vie? Alors là, souvent, je me disais, les personnes plus âgées ne vont pas se sentir concernées, parce qu'on dit toujours, oui, c'est les jeunes et leurs amis, comme s'il n'y a que les amis des jeunes qui influençaient. Je ne sais pas. Hein. Tu regardes sur Internet une vidéo d'un homme qui s'appelle prophète, apôtre, qui s'est donné ce nom-là lui-même, et tu le laisses influencer ta vie. Ah, bah on peut être âgé et regarder Internet, hein, avec le bon sentiment de départ. De se dire, j'ai envie d'être encouragé dans la foi, mais malheureusement, en enlevant les lunettes du discernement et en laissant n'importe qui influencer sa vie. Vous savez qu'il y a des faux enseignants dehors, sur des sites Internet bien connus, qu'on mettrait peut-être même, qu'on encouragerait les gens à aller voir. Ça arrive. Ça peut arriver dans notre église, ça peut arriver. On peut se tromper. Moi, je peux un jour me tromper et dire des choses qui sont fausses. Et on doit s'attacher à la parole de Dieu et faire attention à qui on laisse influencer sa vie. Je me rappelle d'un moment, quand la dernière fois que j'ai vu mon grand-père en Écosse, et il s'est adressé à mon frère aîné. Mon frère était un peu plus âgé, et il lui a voulu lui donner un conseil. Et je l'ai entendu dire dans le coin de l'oreille, « Choisis bien tes amis ». En gros, choisis bien qui influence ta vie, c'est ça qu'il voulait lui dire. Avec un autre ami à moi, face malheureusement à plusieurs personnes autour de nous qui se détournaient de la foi, avec qui on avait été très amis en étant jeunes, fait les camps de jeunes, trucs d'évangélisation, tout ce que vous voulez. Quand on regardait les passages de la Bible, on en discutait ensemble, etc. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ne suivent plus le Seigneur. Ils ont laissé des mauvaises influences prendre racine dans leur vie. Et nous, on se demandait avec notre ami, on fait, mais comment ça se fait que nous, on n'ait pas suivi cette trajectoire-là, que nos amis, eux, ont suivi? Et notre conclusion, c'était, par la grâce de Dieu, il nous a permis d'être entourés par des amis chrétiens, des amis qui nous ont encouragés les jours où on était découragés, des amis qui nous ont montré aussi le chemin, et à qui nous aussi, on a pu montrer le chemin. Mais on était entourés, on a laissé ces personnes-là influencer notre vie. Et c'est ça qui fait la destination à laquelle on arrive. Si la direction que tu prends, c'est laisser des personnes t'influencer dans le mauvais sens, la destination que tu vas avoir, il y a des grandes chances que ce ne soit pas d'être un disciple engagé sur la durée. Tu vas laisser des choses petit à petit rentrer dans ta vie et prendre place et racines. Je me rappelle aussi, il y a quelques années, dans un camp de jeunes, alors là, j'avais pris un engagement, ce n'était pas évident. J'étais un peu en stage avec un orateur, et puis l'orateur, en fait, il a fait les réponses aux questions des jeunes, vous savez, toutes les questions qu'ils avaient. Et puis donc, avec deux amis, hop, on se retrouve assis à côté, on n'était pas prévu du tout, et voilà qu'il pose une question sur le célibat et le mariage, etc. Et moi, j'étais célibataire. Il se tourne vers moi, Raphaël, il fait, vas-y, allez les gars, vous pouvez leur répondre. Comment trouver un bon conjoint? Et là, on est célibataire, et tu nous poses la question, on ne sait pas, nous. Mais voilà que j'étais devant des jeunes qui avaient quelques années de moi-même célibataire, donc en recherche d'un conjoint. Qu'est-ce que j'allais leur répondre? Quel conseil je donnerais pour rechercher un bon conjoint? Et c'est intéressant parce que l'autre ami qui était avec moi, c'est vraiment un ami proche, avec qui on a partagé beaucoup de choses dans le Seigneur. Et en fait, j'ai commencé ma réponse un peu différemment. J'ai présenté mon ami, il y en a qui connaissent Soch. J'ai présenté, je fais, c'est Soch, c'est un super ami. Quand j'ai des moments difficiles, je l'appelle, on prie ensemble, on s'encourage dans la foi, on peut être nous-mêmes. J'ai dit, comment est-ce que je voudrais moins que ça chez ma future épouse? J'aurais même dit, je préfère pas me marier que d'être avec quelqu'un qui ne pourrait pas m'encourager dans ma vie spirituelle. Et vice-versa, bien entendu. Comment est-ce que je voudrais vivre une intimité spirituelle plus forte avec mes potes qu'avec ma future épouse, avec qui on va vivre tous les jours? Et je me rappelle qu'en tout cas, c'est un encouragement que moi-même j'avais reçu quand j'étais plus jeune et que j'encourage, j'en profite pour encourager les gens qui ne sont pas encore mariés de jamais baisser la barre sur le conjoint que tu recherches. Ce n'est pas d'avoir une exigence trop élevée, hein, mais c'est de rechercher quelqu'un qui va t'influencer dans le bon sens. Imagine, tu vas passer ta vie à côté de quelqu'un. Est-ce que cette personne aime Jésus? Est-ce que cette personne veut que tu grandisses dans la grâce? Est-ce que cette personne va puiser dans la grâce les jours où toi, tu manqueras de grâce envers elle? Et je pense que c'est quelque chose de vachement important. Choisir qui va influencer ta vie. Ça va? On refait le topo et le dernier va être rapide. Numéro 1, conseil. Numéro 2, numéro, c'est bien. Numéro 3. C'est pas grave, vous allez reprendre le texte ce soir chez vous et vous allez essayer de retrouver ces points. À chaque fois que vous verrez que l'apôtre Paul s'adresse à Timothée en disant « Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce, efforce-toi d'être comme un ouvrier. » Et il continue ici en disant, chapitre 3, « Quant à toi, tiens ferme. » Vous allez les retrouver assez facilement. Et j'en ai trouvé un autre dans le chapitre 4. Et je vous lis juste ce petit verset et on conclura là-dessus. Au verset 5 du chapitre 4, il dit « Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Il est en train de dire à Timothée, puise tes forces dans la grâce, une fois que tu as puisé ces forces, fais tous tes efforts pour appliquer cette grâce, pas des discussions oisives qui servent à rien, mais au cœur du problème, c'est combattre le péché dans ta propre vie. Laisse des bonnes personnes influencer ta vie et finalement, remplis bien ton service. Vous savez, on dit souvent ce motto-là, sauver pour servir. Mais c'est un peu vrai. Jésus nous a sauvés pour qu'on puisse le servir. C'est ça, c'est la raison pour laquelle on a été créé. Il nous a sauvés pour qu'on puisse aussi partager le message de l'Évangile autour de nous. Dans l'union d'église dans laquelle je suis issu, on a un petit magazine, vous savez, comme l'AECM, là. Et le magazine s'appelle « Servir en l'attendant ». Et nous, on a une petite blague, parce que des fois, on se trompe, on dit « Servir en attendant ». Comme si on allait attendre, là, c'était notre service, vous savez. On attend. On attend que Jésus revienne. Hop, bien au chaud dans l'église. Et on fait rien. Non, servir en l'attendant. En attendant le retour de Jésus, on est appelé à servir. Et ce que l'apôtre Paul il dit, il y a toutes ces personnes qui ont des mauvaises influences. Quant à toi, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprends, exhorte, réfute. Accomplis bien ta tâche qui t'a été confiée. Alors vous allez peut-être me balancer, moi je ne suis pas appelé à être évangéliste, pasteur. Bah, ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé à un service, non? Il n'y a pas juste quelques personnes qui sont sauvées pour servir et les autres sauvées pour attendre. Moi je fais partie de ceux qui attendent. Je ne me lève pas, je ne sers pas, je n'utilise pas les dons que Dieu m'a confiés pour le bien de l'Église. Mais vous savez qu'à chaque fois qu'on n'utilise pas ces dons, on n'est pas en train d'encourager les autres dans la durée à être un disciple. On n'est pas en train d'encourager les autres à tenir ferme. Alors le service, il peut prendre plein de formes. Ça peut être peut-être d'être appelé à être pasteur, évangéliste, quitter son travail pour ça. Mais peut-être ça veut être d'utiliser notre travail pour la gloire de Dieu de différentes manières, ou la situation dans laquelle on vit. Ça peut être d'encourager quelqu'un, ça peut être de prier pour quelqu'un, ça peut être d'appeler quelqu'un. Mais ce qui est fort, c'est quand on encourage quelqu'un, la plupart du temps, nous-mêmes, on est encouragés dans notre foi. Ça vous est déjà arrivé de partager l'évangile à quelqu'un? Et la personne, elle vous remballe et il ne croit pas, puis on se dit, mais purée, Dieu, il m'aime quand même. C'est vrai. Moi, je me rappelle d'un jeune que j'essaie d'encourager toutes les semaines quand j'étais à Caen, justement. Je passais chez lui et on lisait la Bible ensemble. Et des fois, je sortais du boulot, j'étais crevé. Ah, oh, j'en pouvais plus. Et je me disais, faut que j'aille. Pourquoi je me suis engagé? J'aurais dû lui dire que j'étais pas disponible. Et puis, j'allais passer du temps chez lui. Et à chaque fois, j'étais tellement crevé tellement un peu sec. Vous savez, après la journée, hein, spirituellement, on n'a pas envie de lever les mains et chanter « Ouh, je t'aime, Seigneur !» C'est pas comme ça tous les jours. Eh bien, je garais la voiture, j'allais marcher 5 minutes, me recharger auprès du Seigneur. Je disais « Seigneur, encourage-moi que je puisse être un encouragement. » Et je peux vous assurer, à chaque fois, il l'a fait. Et à chaque fois, c'est moi qui t'ai encouragé en sortant. Et je crois que quand on se met au service, le Seigneur, il honore cela aussi. Il nous a créés pour ça. Il nous a sauvés, rachetés pour qu'on puisse servir. Et c'est là qu'il va nous encourager. On ne va pas être des sangsues à toujours chercher autour de nous, à être encouragés par les autres. Mais quand on commence à encourager, on va se rendre compte que l'encouragement de Dieu aussi sur notre vie va être là. Tu as reçu un don, mets-le au service de l'Église. Tu es un bon attendant de tes dons. Si tu ne le mets pas au service de l'Église, c'est comme si, je ne sais pas moi, tu allumais la voiture, tu l'as laissée dans le parking, quoi. Non, tu as eu le permis de conduire, c'est bon. Dieu t'a sauvé, tu peux servir, pas besoin d'examen supplémentaire. Et si tu veux plus d'informations là-dessus, il y a les anciens de l'Église qui seront ravis de vous voir à la fin du culte pour savoir comment vous pouvez aider. C'est bien ça, hein, petit truc pratique. Alors, on fait le petit récapitulatif pour la conclusion. Numéro 1, puise tes forces dans la grâce. Numéro 2, utilise ces forces pour combattre le péché. Numéro 3, choisis bien qui influence ta vie. Et numéro 4, je vous mets, remplis bien ton service. Être un chrétien sur la durée, l'apôtre Paul nous donne ces 4 conseils. Maintenant, j'ai envie de dire, tu fais ce que tu veux avec. Moi, je vais tenter par la grâce de Dieu de les mettre en pratique. Mon désir, c'est de pouvoir marcher dans la durée avec le Seigneur Jésus. Mais je sais que c'est difficile. Je le sais par les témoignages des gens autour de moi, les personnes qui ont avancé davantage dans la foi. Mais comme c'est écrit aussi dans le livre des Hébreux, aux Hébreux, ne vous laissez pas décourager. Regardez à Jésus. C'est vers lui qu'on va regarder parce que c'est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Et quand on a compris cela, on sait qu'on peut avancer dans la vie en pleine sérénité. On n'a pas à avoir crainte. Même les jours où on est découragé, même les jours où il y a des oppositions dans notre vie spirituelle. On peut savoir que c'est Dieu qui a commencé cette œuvre et qui l'amènera à bout. J'espère que ça vous encourage. Oui ? Tu veux vivre, être un disciple sur la durée ? Eh bien, on prie qu'on puisse vraiment mettre ces conseils-là en pratique. On va prier ensemble.